Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En 2019, fraîchement devenue sexologue, je fis la rencontre d'un livre qui s'intitule « Au-delà de la pénétration », écrit par un certain Martin Page, qui interroge la place de la pénétration dans les relations hommes-femmes. Et ce livre, il a ouvert les portes d'un langage différent lorsque j'aborde la sexualité avec mes clients et clientes. Cette notion de sexualité avec pénétration, de sexualité sans pénétration, mais surtout d'une sexualité qui, peu importe si elle est pénétrative ou non, mérite tout son plaisir. Et oui, la pénétration vaginale dans les rapports hétérosexuels ne fait pas tout. Pour réfléchir à tout ça, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir cet auteur, Martin Page. Il est le co-créateur, avec Colline Pierret, du laboratoire d'édition Monstographe, auteur de romans, d'essais et de livres de jeunesse. Martin, bienvenue sur le podcast.
Et merci pour l'accueil.
Je suis ravie. Et d'ailleurs, pour expliquer un petit peu à l'audience, quand je t'ai demandé si tu souhaitais participer à ce podcast, tu m'as répondu « J'ai déjà beaucoup parlé et je crains de prendre de la place et de radoter un peu. Ne préférez-vous pas inviter une femme ? Les réflexions de Maya Mazorette, Victoire Tuyallion ou June Plan sont passionnantes. Je suis en contact d'ailleurs avec certaines d'entre elles et ça serait l'honneur, vraiment un honneur de les recevoir. Mais pourquoi ça te semblait important qu'une femme parle de ce sujet ?
Alors, pourquoi est-ce que ça me semble important qu'une femme parle de ce sujet ? Alors, c'est un peu compliqué dans mon esprit parce que je pense que c'est... ça me semble très important en effet, mais s'il y a une parole qui manque, c'est aussi la parole des hommes et les réflexions des hommes. Donc, je trouve ça important qu'il parle aussi. C'est un peu ce que j'ai découvert avec Au-delà de la pénétration. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours et à 99% féminin. Donc, j'aimerais aussi que les hommes se saisissent de la parole, peut-être dans leur coin, en créant peut-être des podcasts ou en écrivant des livres. Mais sinon, pourquoi est-ce que la parole des femmes est importante? En tout cas, dans le cadre de la sexualité, c'est parce qu'il me semble que la plupart des hommes hétérosexuels se satisfont en fait d'une norme sociale qui est en leur faveur, parce qu'ils sont les dominants. Donc évidemment, le monde sexuel tourne plutôt en leur faveur. Et, Et j'ai perdu le fil. Pardon. Ah, bon.
Mais pourquoi ça te semble important que ce soit des femmes? Parce qu'il y avait aussi cette notion de j'ai peur de prendre trop de place aussi en tant qu'homme hétéro aussi, peut-être, sur ce sujet-là.
Pourquoi est-ce que ça me semble important que ce soit des femmes? Ensuite, je ne veux pas émettre une opinion, je ne veux pas dire, je ne veux pas décider ou laisser penser que j'ai... Je ne pense pas que ce soit à moi de dire si c'est les femmes ou les hommes qui doivent parler de ce sujet-là. Mais en tout cas, moi, j'avais à cœur de dire que je suis peut-être un peu là par hasard et que les personnes les plus concernées et les mieux à même de parler de la sexualité hétérosexuelle, ce sont les femmes hétérosexuelles et que c'est elles qui vont dire des choses les plus intéressantes, les plus pertinentes. Alors j'essaie de pas... Le but, c'est pas de dévaloriser ce que j'ai fait et mon livre et tout ça, mais j'ai un point de vue sans doute particulier et limité. J'ai l'impression que c'est pas qu'une impression, mais les hommes prennent beaucoup de place dans les médias, prennent beaucoup de place, je sais pas, au sein des jurys, des prix littéraires, à la radio, à la télé, dans les librairies, les bibliothèques, les musées et tout ça. Donc voilà, ça me semblait normal de, dans un premier temps, de dire. Mais tu sais, en fait, il y a... Enfin, pas tu sais, parce que j'ai pas dit...
Parce que, justement, je les connais, et vraiment, oui, j'aimerais bien...
Et dire, ben voilà, il y a peut-être, d'une plaque, il y a des choses super à dire, et je sais pas ce que je pourrais dire de plus ou de mieux, de différent que d'une plaque. Alors peut-être, peut-être que moi, du fait de ma position, de mon parcours et tout ça, je peux dire des petites choses légèrement différentes, mais le savoir est plutôt du côté des femmes. Alors, c'est compliqué aussi, parce que là, ça veut dire aussi... Si je dis ça, la question qu'on peut me poser, c'est « Ah oui, mais alors, qu'est-ce que tu fais là, en fait ?» Non, mais c'est légitime. Et ce que je fais là, c'est que... en fait, c'est ce que j'avais dit dans un article de La Déferlante aussi, où je me posais les mêmes questions, en fait, en me disant « Qu'est-ce que je fais là ?» et tout ça. Ce que je fais là, c'est que je suis disponible quand des femmes, des féministes me demandent de venir et de parler, en fait. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire. Je n'irai jamais taper à la porte de ton podcast, ou taper à la porte de La Déferlante, ou taper à la porte de Julien Plat, ou je ne sais pas qui, ou de Victoire Toyon, pour dire « Hey, je voudrais parler, j'ai des choses passionnantes à dire ». Je ne ferai jamais ça, évidemment. Mais par contre, s'il y a des militantes, des journalistes, femmes ou des féministes qui me disent « Bah voilà, j'aimerais te poser quelques questions », c'est pas illégitime, et il me semble que c'est la moindre des choses de dire, ben voilà, je suis là, je suis à votre service. Enfin, je sais pas si à votre service est le bon mot, mais en tout cas, je suis disponible. Et si vous pensez que l'enregistrement, mon article, tout ça est vraiment pas bon, ben le publiez pas. J'ai absolument aucun problème d'ego par rapport à ça. Voilà, c'est dire que voilà, faut que ça vienne. C'est des femmes et des féministes en fait qui viennent me poser des questions et que. Et je ne vais pas mansplainer en fait à des femmes en disant vous avez tort de m'inviter. Donc voilà, je sais bien que ma position est complexe.
Et en même temps, parce que tu parlais aussi de te comparer un petit peu à d'une place, je pense qu'il n'y a pas de comparaison. Chaque discours est à entendre. Et en plus, comme tu as envie que ce message puisse être diffusé, surtout répercuté chez les hommes hétéros cis, et comme tu disais dans ton livre, bah, surtout c'est beaucoup de femmes qui te contactent.
Oui, échec complet.
Échec complet, zut. Donc comment on peut les atteindre? Et ouais, de toute façon, voilà, c'est en diffusant la parole. Et puis ce qu'une femme dira pourra parler plus à un homme, ou ce qu'un homme dira pourra parler plus à un homme. Donc bref, chacun a sa place et a ses choses à dire. Et ça, c'était peut-être important, voilà, pour commencer le podcast. Et comme tu disais, il y a aussi des limites à ton livre, et on pourra en discuter aussi et réfléchir ensemble. Donc super. Donc comme je disais dans ton livre. Ton livre m'a vraiment ouvert un monde des possibles pour encore mieux accompagner en sexologie, tu vois, à parler avec mes clients. Alors moi, je parle de clients et clientes, vraiment en leur posant la question, quand vous pensez le rapport sexuel, quand vous parlez de faire l'amour, c'est quoi? C'est, vous voulez dire, avec la pénétration. Et ça les fait vraiment réfléchir. Ils ont vraiment un temps de pause en disant, qu'est-ce qu'elle raconte, évidemment? Enfin, quoi, il y a d'autres choses de possibles? Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup qu'on pense au-delà de la pénétration, parce que ça permet du coup aussi d'enrichir la sexualité ou de penser la sexualité. Enfin bref, je ne sais pas combien de fois j'ai recommandé ton livre justement à ma clientèle et à d'autres sexologues. Et là, j'aimerais lire, je vais faire un monologue parce que j'aimerais lire un extrait de ton livre. Tellement chaque phrase fait l'effet d'une bombe et puis je te poserai des questions ensuite, ok?
Ok.
Donc là, je te cite. Je dois être honnête. J'écris ce texte critique à l'égard de la pénétration et pourtant, j'aime ça. J'aime l'acte de pénétrer. J'en retire un grand plaisir. C'est très waouh. Aimer un acte n'empêche pas de le questionner et de le critiquer. C'est évidemment à des femmes que je dois ce désir de penser la pénétration. Ce sont leurs mots et leurs réactions qui m'ont fait prendre conscience qu'il y avait matière à réflexion. La pénétration a tout pour plaire. Et quel plaisir, n'est-ce pas? Du plaisir pour l'homme qui pénètre? La plupart du temps. Du plaisir pour la femme qui est pénétrée? Moins souvent. J'ai abordé la question de la pénétration avec d'autres amies femmes et j'ai compris que le rituel n'est pas forcément simple, que les femmes ont un point de vue différent, plus complexe que les hommes sur la question. Elles ont beaucoup de choses à dire si on est prêt à les écouter. Être un mec, c'est souvent prendre notre point de vue dominant pour le règne naturel des choses. On devrait toujours se sentir un peu méfiant d'être un mec et admettre qu'il est temps de jouer contre notre camp et de remettre en cause nos évidences. J'ai continué mon enquête, j'ai posé des questions et j'ai écouté. Martin, tu as écouté et qu'est-ce que tu as entendu ?
Alors, j'ai écouté et c'était un peu la difficulté. J'ai aussi écouté des choses qui n'étaient pas dites. Parce que, en fait, c'est bizarre parce que la sexualité est vraiment partout. Je veux dire, dans les films, les séries, la littérature, dans les magazines féminins, masculins, etc., etc. Donc, on en parle énormément, mais finalement... On tourne un peu en rond et y a plein de questions qui sont jamais abordées parce que c'est extrêmement gênant, je pense, pour beaucoup de gens parce qu'il y a des histoires de pouvoir, de domination derrière. Donc, pardon, j'ai perdu le fil. Ta question, c'était ?
Qu'est-ce que tu as entendu quand tu as partagé avec tes amis et qu'elles te parlaient de la pénétration et toi, tu étais là en mode « j'écoute, j'observe ». Qu'est-ce que tu en as retenu ?
Ce que j'ai entendu, c'est beaucoup de silence et de choses qui n'étaient pas dites par des mots, mais qui pouvaient passer par des attitudes, par des petits signes, en fait. Parce que j'ai l'impression, en tout cas, chez les femmes que je connais, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la honte à reconnaître que la sexualité par pénétration n'était pas la plus grande forme de plaisir, en fait. C'est un sentiment de ne pas y arriver, d'être incomplète, etc., etc. Donc, c'est ce que je dis aux mecs, en fait. Il ne s'agit pas simplement d'écouter parce que parfois, la parole est trop difficile. Donc, voilà, je peux dire que j'ai écouté, j'ai parlé à des copines, à des amis, à ma compagne, etc., etc. Donc, ça, c'est vrai. Mais je pense que beaucoup de choses est venue par l'observation, en fait, de ma vie de couple, amoureuse, et par des choses qui n'étaient pas dites, mais qui faisait qu'à un moment, je ne sais pas, il pouvait y avoir un éloignement de la sexualité, il pouvait y avoir des silences ou quelque chose qui était pas dit, mais qui était malgré tout présent. Donc, est-ce que c'est aussi, ça peut être aussi un travers des mecs qui peuvent se justifier en disant « Ah, mais ma copine, on ne m'en a jamais parlé », et tout ça. Et c'est un peu facile, en fait. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se contenter de... Il faut prendre en compte qu'on est dans une situation de domination. Il y a des dominants et des dominés. Et en fait, la parole des dominés, quand ils parlent aux dominants, elle est extrêmement complexe, en fait. Elle n'est pas simple. Et elle est, donc, on ne peut pas reprocher aux personnes dominées de ne pas s'être plaint, de ne pas avoir dit, parce qu'il y a le poids d'une structure sociale en faveur qui pèse sur leurs épaules, sur les épaules des femmes. Donc, il s'agit aux dominants de faire l'effort, de fait, de décoder, d'aller chercher dans le silence ce qui n'est pas dit.
En posant des questions, du coup, j'imagine.
Ouais, en posant des questions, en lisant, en écoutant des podcasts, en lisant le livre de June Pla, en s'abandonnant à des comptes Instagram, en allant voir un psychologue, un thérapeute, pourquoi pas, je pense que beaucoup...
Des sexologues.
Des sexologues, on aurait besoin. Arrêter de penser que parce que rien n'est dit, que ça semble rouler, que pour soi ça va, ça veut dire que ça va. Et c'est assez... On disait tout à l'heure, c'est vrai que c'était plutôt un livre que j'imaginais en direction des hommes. Et donc, Échec total, c'est un livre qui est lu essentiellement par des femmes. Et parfois, ces femmes le passent à leurs copains. J'ai souvent des femmes, des jeunes femmes qui me disent « il n'a pas voulu le lire » ou alors « il a été vexé ». Et ouais, c'est désespérant, quoi. Alors, j'ai aussi des très belles, j'ai aussi une très belle histoire où il y a un jeune homme qui m'a écrit en me disant qu'il avait trouvé le livre sur la table de chevet de sa copine. Et il l'a lu comme ça en une après-midi. Et tout d'un coup, quand elle est rentrée, je sais pas, du travail, ils ont parlé sexualité et ils ont changé leur rapport à la sexualité. Et ça a été libérateur et un changement existentiel pour leur couple incroyable. Il y a un papa aussi qui m'a écrit pour me dire qu'il avait acheté 3 exemplaires de mon livre pour ses enfants adolescents. Donc, j'ai parfois des mecs comme ça, des beaux retours de mecs, ou des femmes qui me disent, des jeunes femmes qui me disent, je l'ai lu avec mon copain au lit et tout ça, on l'a lu ensemble et tout ça.
C'est un outil, quoi, vraiment un outil de communication pour le couple.
Des très, très, très beaux exemples comme ça, et je pense que ça fait son chemin. Mais dans les faits, c'est un livre qui est lu vraiment essentiellement par des femmes. J'ai une petite anecdote à ce propos. N'hésite pas à m'interrompre. Hein, si
oui, dis-nous.
Au départ, en fait, j'avais un éditeur pour ce livre, mais il m'a laissé tomber. Donc, on l'a publié dans notre petite maison d'édition microscopique qui s'appelle Monstrographe. Donc, on fait les paquets à la main, on va à la poste et tout ça. C'est très, très artisanal. Et donc, les commandes se font essentiellement par notre site. Depuis, le livre est ressorti chez un éditeur.
Oui, normal, Attila.
Le nouvel Attila, ouais. Et donc, il est disponible dans toute librairie, simplement. Et donc, donc on vend essentiellement par notre site Internet. Sur notre site Internet, tu vois, on voit, il y a l'adresse de facturation. Donc, la personne qui paye avec sa carte bleue ou le compte PayPal, et adresse d'expédition. Et assez souvent, adresse de facturation, c'était une meuf. Adresse d'expédition, c'était un mec. Et c'était super, c'était drôle et triste et troublant, en fait. Je pense que c'est plein de meufs qui envoyaient ça à leur ex, à leur copain, je ne sais pas trop quoi, en fait. Parce que pour leur dire, mais purée, quoi, lisez, renseignez-vous, remettez-vous en cause. Voilà.
Ouais, donc du coup, beaucoup de femmes qui l'achetaient et l'envoyaient, comme tu disais. C'est vrai, même dans des groupes, quand je vois dans les groupes entre femmes, où on se dit, bah ça, faudrait que je l'envoie à mon ex pour qu'il comprenne un peu mieux. Et c'est vrai qu'au-delà de la pénétration, faisait partie des livres comme ça. Et c'est un chouette outil pour penser et réfléchir à la sexualité, comme je disais. Et moi, vraiment, dans les couples et les couples hétérosexuels, je leur dis de le lire et qu'on puisse débattre là-dessus. Enfin, débattre, en tout cas, penser, parce que ça permet de réfléchir. Et souvent, en premier lieu, c'est vrai que c'est la femme qui va être demandeuse et de se dire « Ah oui, d'accord, mais évidemment, si on pouvait faire d'autres choses ou pas tout le temps nécessairement la pénétration, j'en aurais un petit peu plus envie. Ouais. » Et donc, la femme est déjà on board et l'homme est là « Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire sinon ? Enfin, qu'est-ce que je vais retenir, moi, de la sexualité s'il n'y a pas de pénétration ?»
Pauvre chaton.
et en plus, tu disais… Pardon, je te coupe.
Non, c'est moi qui te coupe.
Tu disais que les hommes, la pénétration était en leur faveur. Et moi, je leur dis en fait que c'est souvent en leur défaveur, que leur sexualité est pauvre si elle est réduite à cette pénétration qui fait partie de 5% de la sexualité. En fait, finalement, ils sont piégés dans ce rapport de domination, de la vision de ce que doit être la sexualité pénétrative.
Oui, je sais pas, je vois ce que tu veux dire et en même temps, peu importe, en fait, parce que leur plaisir, c'est le plaisir de la domination. C'est un peu comme de dire aux êtres humains, vous savez, votre rapport à la nature, le fait de détruire la nature, c'est vraiment un rapport qui n'est pas enrichissant. En fait, peu importe, les êtres humains, ils jouissent de leur rapport de domination envers la nature. Donc, je pense qu'il y a le nœud du truc, c'est vraiment la domination. Et je ne pense pas que ça fera changer les mecs de leur dire, vous aurez une sexualité plus intéressante si elle était plus égalitaire. Je suis peut-être hyper pessimiste.
Quand on parlait d'égalitaire, là, je ne parle pas d'égalitaire, je dis vous aurez une sexualité plus satisfaisante.
Même ça, je ne crois pas que ça suffira.
Ah ouais, ok.
Mais tu vois, c'est comme la virilité. C'est comme si on disait, vous savez, si on disait au mec, allez voir un psy, vous irez mieux, exprimez vos sentiments, vos émotions, ça irait mieux. Mais en fait, ils ne le font pas, en fait, parce que le but du jeu, c'est de rester maître de la domination. Ce n'est pas d'avoir une meilleure qualité de vie, en fait. C'est pas ça, à mon avis, l'enjeu. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il faut pas trop compter sur les mecs pour changer, parce que l'attrait de la position de domination, c'est leur bien le plus précieux, je pense. C'est plus que l'amour, plus que de relations sentimentales, amicales, sociétales, harmonieuses et plus satisfaisante pour... Je suis peut-être très pessimiste, j'ai un peu... Pardon. Ensuite, au niveau des individus, je pense que ça peut se passer. Je pense qu'il y a vraiment des individus pour qui des mecs qui, par amour, vont changer, vont se poser des questions et tout ça. Mais j'ai l'impression que... enfin, les dominants lâchent jamais en fait leur domination.
Oui, oui. Et il y a encore, effectivement, on est toujours dans Not All Men. Hein, mais non, je veux dire, là, je vais prendre les cas des personnes en consultation, donc dans les couples hétérosexuels, où l'homme est OK, je ne comprends peut-être pas forcément ce que ça peut m'apporter, mais je suis ouvert. Ou même d'autres hommes qui vont dire finalement, mais oui, ma femme pense que j'ai que envie d'une sexualité pénétrative, alors que je lui ai dit mille fois qu'en fait, si on faisait du sexe oral, ça mérite très bien. Et elle ne comprend pas que moi, je veux aussi d'autres choses. Donc, il y a des hommes dans cette position aussi.
Bien sûr, oui. Mais je pense que justement, les hommes qui viennent te consulter, c'est déjà des hommes qui sont sensibles, qui ont fait du chemin, qui sont déjà particuliers, en fait, qui sont déjà alliés de leur compagne, en tout cas, qui sont capables de remise en question et tout ça. Et j'ai peut-être l'impression, mais alors peut-être pessimiste, j'espère que je me trompe, que c'est encore une minorité. Tu vois, c'est un exemple, c'est, je ne sais pas si c'est un exemple qui a une quelconque valeur, mais tu vois, donc ce livre, il a été porté et défendu, non seulement lu, hein, mais porté et défendu que par des podcasteuses, des journalistes, des
sexologue, hein.
Sexologue aussi. Ouais, sexologue. Et femme. Je crois que non, il y a eu un ou deux sexologues hommes quand même, mais c'est une profession assez particulière, donc je pense qu'ils sont un peu plus sensibles. Mais c'est que des femmes, en fait. Le seul journaliste homme qui en a parlé dans la presse, il n'a pas aimé le livre, en fait. Il y a un truc. Je suis pas pour dire qu'il faille absolument aimer mon livre. Mais voilà, il y a un seul mec, un seul critique littéraire qui parle. Un seul homme critique qui parle de mon livre, et c'est pour dire qu'en fait, il n'aime pas. Donc, c'est assez, même auprès de gens qui sont censés avoir un regard un peu critique, un peu professionnel sur un livre et son contenu, eh ben, ça coince dès qu'il s'agit des hommes. Les hommes critiques littéraires n'ont pas été là, en fait.
Intéressant, ouais, de changer les normes. Et ça va être intéressant aussi avec la diffusion de cet épisode aussi, de voir, tiens, est-ce que ça va être les femmes qui vont être « Youhou, il est super intéressant cet épisode !» et les hommes vont dire « Mais c'est quoi cette merde ?» Non, à voir vraiment quelles vont être les réactions par rapport à ça. Mais ça montre que, oui, effectivement, chambouler les normes et la manière de penser, ça demande effectivement une réflexion sur soi, de se dire qu'on peut faire les choses différemment. Et effectivement, la manière dont les hommes ont été éduqués dans la société patriarcale, c'est... tu es le plus fort, c'est toi qui sais mieux que tout le monde, et puis remettre en question ce que tu fais depuis tout le temps, ça serait une forme de faiblesse ou de vulnérabilité qui est mal vue, en fait.
Oui, c'est ça, et aussi le risque de perdre du pouvoir. Ouais, la question, c'est pourquoi est-ce que les hommes changeraient, en fait, s'ils ne sont pas obligés de changer ? Alors, je pense que certains par amour, justement, je pense que l'amour peut être un vrai moteur, par amitié, sentiment de justice sociale, en disant la situation des femmes, elle est injuste, c'est une question de justice sociale, il faut se battre pour ça. Mais je pense que beaucoup d'hommes, les dominants lâchent pas facilement leur domination, en fait, la lâche pas.
Ouais. Et puis c'est vrai, quand on parle de ce livre ou même de penser la pénétration, il y a tout de suite cette peur de se dire que la sexualité ne doit plus être avec la pénétration. Il y a eu un petit peu aussi l'effet inverse.
Il y a des gens, et je n'ai pas compris du tout, même des femmes et tout ça, qui m'ont dit « Ouais, Martin Page veut nous empêcher, veut interdire, il n'a rien compris vraiment aux femmes hétérosexuelles et tout ça. » Et j'étais super embêté parce que je ne veux pas du tout interdire la pénétration. J'en ai pas le pouvoir. Et si j'ai le pouvoir, c'est pas ça du tout, en fait. Je dis simplement... Je m'adresse principalement, je m'adresse aux mecs et je leur dis, écoutez votre compagne. Les femmes ont moins de plaisir, les femmes hétérosexuelles, hein, parce que ce n'est pas le cas des femmes homosexuelles.
Ça, c'est... Les études le montrent, donc effectivement, hein, ce n'est pas basé juste sur, comme ça, subjectif, c'est vraiment, les études montrent, alors les pourcentages, je ne sais plus, mais une grande majorité de femmes, en tout cas, ressentent du plaisir via une stimulation autre que vaginale. Souvent, des fois, ça va être juste, par exemple, par rapport à la masturbation, juste en se stimulant le clitoris. Des fois, une minorité va associer pénétration vaginale et clitoris, et puis encore une toute petite minorité où juste la pénétration vaginale va être satisfaisante. Mais ça vient en dernier lieu, quoi.
C'est assez frappant. Donc moi, mon propos, c'était juste de dire ça. Il ne s'agit pas de critiquer le fait, de remettre en cause le fait qu'il y a des femmes, par exemple, qui aiment la pénétration vaginales et qui ont du plaisir comme ça, et c'est très très bien. C'est pour ça que c'était important. Dans mon livre, il y a une partie témoignage, et dans cette partie témoignage, il y a une femme qui dit, pour le coup, elle n'a du plaisir que par la pénétration. Elle déteste le cunnilingus, elle déteste les caresses et tout ça. Et c'est à entendre aussi, en fait. Il s'agit, mon message aux hommes, c'est de dire, voilà, posez des questions à votre partenaire, essayez de voir ce qui pourra lui donner le plus de plaisir. Parfois, ça sera que de la pénétration. Parfois, ça sera pénétration et simulation clitoridienne. Parfois, ça sera cunnilingus, caresse et tout ça. Il ne s'agit pas du tout de dire que la pénétration, c'est mal ou que c'est pas bien ou que c'est pas cool et tout ça. Donc, j'ai vraiment eu l'impression, en fait, que c'était tout d'un coup. Mais c'est assez classique, en fait. C'est à partir du moment où on critique la norme trouve ça insupportable, en fait. Et donc, monte un peu sur ses grands chevaux et tout ça. Mais il faut rassurer tout le monde. Malheureusement, en fait, la pénétration reste quand même la norme, même si elle apporte peu de plaisir. Il n'y a pas de risque que la pénétration disparaisse. Gardons nos plans.
Et parce qu'elle peut aussi apporter, comme tu disais, du plaisir, et donc c'est pas la supprimer. Et c'est vrai que là, sur les comptes Instagram, on a tellement parlé de faire différemment, autrement que par la pénétration, que maintenant on revient à « Non, mais vous savez, c'est OK aussi si vous aimez la pénétration. Vous avez le droit d'aimer la pénétration pour les femmes. »
Bien sûr, mais je vois pas comment on a pu comprendre autrement. Pour moi, c'était très, très... Il y a aussi des hommes qui m'ont écrit, en fait. Essentiellement, c'est surtout des hommes qui m'ont aussi écrit. Moi, j'ai eu des insultes homophobes aussi, évidemment, et tout. Mais ça me fait vraiment penser au débat qu'il peut y avoir, par exemple, sur le végétarisme ou le véganisme. Il y a une réaction très, très, très forte et très... qui n'est pas en lien, en fait, avec le... Avec
violente, un discours, quoi, par rapport
à ça. Ouais. C'est assez étonnant.
L'idée, c'était d'avoir une réflexion sur justement la sexualité pénétrative. Et j'avais posé justement une boîte à questions pour mon audience sur les questions qu'ils aimeraient te poser. Donc, il y a une question qui est beaucoup revenue. Comment se détacher de l'image qu'un rapport sexuel abouti passe uniquement par la jouissance pénétrative?
Je pense que la solution, ça va être des dizaines d'années de changement de représentation, de livres, de podcasts, de travail de sexologue.
Des dizaines d'années, mais les gens n'ont pas 10 ans.
je suis peut-être pessimiste, mais c'est tellement ancré, tu vois. Il y a une amie à moi, par exemple, qui a lu le livre, et sa réaction, ça a été, alors qu'elle a lu le livre, elle m'a dit « Ah oui, c'est vrai, il y a des femmes qui ont été traumatisées et qui n'arrivent pas à jouir par pénétration vaginale. » Et alors, il y a toujours cette idée-là, en fait, mais...
Cette idée qu'on est passé par un trauma si on n'aime pas la pénétration vaginale, en gros.
Je sais pas, je suis peut-être toujours très pessimiste, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va prendre encore du temps, et ça va être par le travail des militants, des militantes, des personnes qui remettent... Je pense qu'aujourd'hui, on a une conjonction, en fait, de critique de la norme qui fait que les choses vont avancer. Il y a une critique de l'hétérosexualité, il y a une critique de la... même, je pense, par exemple, au combat pour le climat, il y a quelque chose qui est de l'ordre de lutte contre la domination en général qui fait que les choses vont peut-être avancer plus vite. Surtout, il n'y a jamais eu autant d'informations disponibles. J'aurais aimé rêver qu'il y ait eu, par exemple, le compte Instagram de June Plat ou ton podcast ou d'autres podcasts, celui de Charlotte Bien-Aimée ou d'autres et tout ça, quand j'étais adolescent. Ce qui va changer, c'est tout d'un coup la masse d'informations disponibles est gigantesque et accessible, et on en trouve même dans des séries, ça sera dans des livres et tout ça. Donc, je pense que là, en 3-4 ans, c'est un changement civilisationnel, j'emploie des grands mots, c'est du jamais vu, quoi. Il y a un truc, c'est là la révolution sexuelle, au niveau de la diffusion de cette information. Tout d'un coup, dans des livres, même pour ados, on dit aux ados, vous savez, la pénétration n'est pas obligatoire. Pas dans tous, c'est toujours compliqué. Mais toutes les questions aussi sur le genre, le fait qu'il y ait de plus en plus de jeunes gens qui se disent non-binaires, par exemple, et tout ça. Je pense que c'est une époque très fertile, très riche. Dans la contestation de la norme, quand cette norme est oppressive et crée de la douleur et l'insatisfaction, des inégalités, de l'injustice. Donc, je pense que c'est le travail de tous ces gens et essentiellement de toutes ces femmes qui bossent pour diffuser ces informations et qui changent les représentations. C'est ça qui va faire que ça va changer. Quoi.
Ok, ouais. Donc ça passe quand même par les femmes, même s'il y a ton désir premier qui était au début que les hommes puissent s'en emparer. Pour l'instant, c'est, comme tu disais, un peu un échec, même si on voit quelques podcasts qui repensent à ça. Mais effectivement, il faut que le flot d'hommes puisse prendre ça en charge, parce que, comme on dit aussi, c'est une charge de plus pour les femmes. Ouais. Et souvent, elles luttent en se disant « je suis seule dans mon couple à vouloir ces changements-là, quoi, aussi. »
Ben ouais, mais c'est triste, mais c'est assez logique. Enfin, il y a quelque chose, du point de vue des mecs, en fait, il y a quelque chose de super pratique et paresseux, en fait, dans la pénétration. Hein. Vague préliminaire, pénétration, éjaculation, pof. Et il y a aussi un autre truc, c'est que ça permet aussi d'asseoir une domination. C'est-à-dire, moi, j'ai du plaisir, toi, t'en as pas ou t'en as peu. Donc, ça dit quelque chose aussi de qui règne d'une certaine manière. Je pense qu'il y a c'est en ça que l'hétérosexualité en soi c'est quelque chose de compliqué, parce que c'est une relation entre un dominant et une dominée. Ce serait, je veux dire, c'est un peu, il y a quelque chose qui est en soi qui est complexe. C'est pas impossible, hein, du tout. Moi, je connais des gens dans des relations hétérosexuelles super chouettes, épanouies, mais c'est vrai que ça complique les choses, quoi.
Et tu parles pas mal aussi, hein, c'est ça, de domination, de rapport dominant-dominé. Est-ce que il y a aussi le cas, parce que voilà, toi tu dis un peu pessimiste, moi j'essaye d'être un petit peu, et je sais aussi qu'en consultation, effectivement, j'attire des personnes qui ont déjà fait leurs recherches, ouvertes. Ouais. Déjà, pour aller en consultation en sexologie, il faut quand même penser la sexualité.
Exactement, c'est déjà quelqu'un, des mecs qui ont déjà fait tout un travail, et peut-être grâce à leur copine, hein, d'ailleurs, mais en tout cas, ils ont bougé, quoi.
Ouais, donc voilà, c'est pas forcément représentatif, mais je veux dire qu'il y en a qui existent. Et pourquoi ça, c'est parce que du coup, il y a des fois des hommes aussi qui se disent « Ok, bah, j'ai conscience que la pénétration, ça fait pas tout, mais je sais pas quoi faire d'autre, j'ai l'impression que je ressens rien si je fais autre chose. » Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette sorte d'éducation sensorielle de la sexualité des hommes aussi ?
Ouais, bien sûr, mais c'est un peu comme la gastronomie, c'est un peu comme la musique, c'est comme tout, en fait. Le corps humain et notre corps sensitif, et pas du tout, c'est pas un bloc de marbre, en fait, qui est sculpté une fois pour toutes. En fait, on est capable d'apprendre. On le voit bien, nos goûts ont évolué en matière d'alimentation, de boissons, d'alcool, de café, je sais pas trop quoi, de musique aussi. Donc, évidemment, notre corps, on fait comme s'il y a quelque chose d'intangible et d'immémoriel, mais c'est faux, évidemment. Donc, bien sûr qu'on peut apprendre. Encore faut-il avoir la volonté de ça, mais il n'y a pas de risque de perte de plaisir chez les hommes. Et même, j'aurais dit, et même s'il y avait peut-être un peu moins de plaisir. C'est comme, tu vois, ces mecs qui ne veulent pas mettre de capote parce qu'ils ont moins de plaisir. Et c'est vrai, hein.
Il y a des choses qui peuvent être travaillées. Moi, j'ai envie de dire, à chaque fois, on peut en fait travailler plein de choses.
Ouais, là-dessus. Mais admettons que ça soit vrai, bah, il faudrait aussi assumer ça, en fait. Se dire, bah, c'est pas grave, en fait. Grandissons. Ça m'embête de dire grandissons, parce que les enfants sont souvent plus mûrs que les adultes. Mais, bah, mec, si t'as un peu moins de plaisir et que ta compagne en a plus, est-ce que c'est vraiment grave? Bah, tu trouveras du plaisir ailleurs, vous prenez votre temps, il y a tout un apprentissage. Et
c'est ça. Ça a développé la sensorialité autrement que par le pénis aussi. Et en fait, venir ajouter un combo de stimuli sensoriels autre que sur le pénis, pour justement que, en fait, l'expérience globale soit plaisante. Mais arrêtons de nous focaliser sur les organes génitaux, déjà.
Ouais, mais c'est super compliqué. C'est-à-dire qu'il y a... l'être masculin est éduqué à l'insensibilité, en fait, depuis l'enfance. Donc, c'est extrêmement compliqué de déconstruire tout ça à l'âge adulte, en fait. Il ne s'agit pas de trouver des excuses pour les hommes, hein, mais les hommes, s'ils sont adultes comme ça, c'est qu'ils ont été éduqués comme ça. C'est pas un choix de leur volonté et tout ça. Donc, ils ont été éduqués à l'insensibilité de leur corps. Je me souviens, dans la série Friends, il y a une scène où Monica, qui est une actrice, parle de toutes ces zones érogènes, et je sais pas, il y en a 10, elle dit là, 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 et les mecs autour d'elle sont éberlués et tout ça, mais en fait, les hommes et les femmes ont le même système nerveux central, en fait. Les hommes ont des nerfs aussi, il n'y a pas de raison pour que les meufs aient plein de zones érogènes et les mecs en aient qu'une, en fait. Il y a zéro raison. C'est social, c'est culturel, c'est politique, hein.
Bah oui, l'organe sexuel, c'est le cerveau. Donc, on a tous un cerveau, donc on devrait tous... Alors, pas en termes de comparer les sensations, mais on peut tous avoir déjà des orgasmes multiples, on peut tous ressentir des sensations, et que ce soit par tout le corps. Mais c'est de l'éducation aussi à la sensorialité.
Ça me fait penser à un truc, mais il ne s'agit pas du tout de dire que les hommes auraient intérêt à moins se focaliser sur la pénétration. Évidemment, je pense qu'ils auraient moins intérêt déjà pour le bonheur de leur partenaire, mais aussi de façon très égoïste pour leur bonheur. C'est un médecin qui me disait qu'à partir d'un moment, en fait, tous les mecs arrêtent de bander, en fait. Alors, je ne sais pas à quel âge, 70 ans, je ne sais pas.
Vers 50 ans, ça commence déjà.
Ben voilà, vers 50 ans et tout ça. D'autant plus s'ils ont une nourriture, s'ils mangent beaucoup de viande, et tout, c'est mon message de végétarien, c'est pour ça que je dis ça. Donc, il me dit, en fait, ouais, tous les hommes vont arrêter de bander, en fait, vont avoir des problèmes d'érection. Donc, c'est absurde qu'ils se focalisent sur un truc qui, à un moment, va plus trop fonctionner ou mal fonctionner. En fait, c'est suicidaire. Dans une rencontre en librairie, il y a un couple de personnes âgées, je ne sais pas quel âge ils avaient, 65, 70 ans, je ne sais pas.
Et le mec, la personne âgée à 65 ans, il y a des gens qui vont te dire, oula,
pardon,
qui vont
se fisquer. Désolé. excusez-moi. Et ce monsieur avec sa femme est venu me voir et m'a dit, donc c'était après une rencontre autour de la pénétration, il m'a dit, ah oui, non, c'est très très bien que vous parliez de ça, parce que moi, j'ai eu un cancer de la prostate, et donc voilà, j'étais plus capable de bander. Il n'a pas employé ce vocabulaire là, mais c'est ce qu'il disait. Et on a découvert d'autres manières, en fait, de se donner du plaisir et de faire l'amour. Et ça a été pour nous, en fait, on a redécouvert la sexualité alors qu'on était âgé, entre guillemets, pardon. Mais voilà.
Mais c'est pour ça que penser à la pénétration, nous, en tant que sexologues, c'est notre outil le plus formidable, parce que comme tu dis, et même chez les jeunes hommes, il y a beaucoup de jeunes hommes aussi qui ont des pertes d'érection, des troubles érectiles, parce qu'il y a trop de stress, d'anxiété, à la pénétration, en fait, de performer, de pénétrer, etc. Et en fait, si on arrivait à dézoomer un petit peu cette pénétration, il y aurait beaucoup moins d'appréhension, et en plus, ça permettrait d'explorer toute cette palette d'outils, d'activités, de pratiques sexuelles. Et d'autant plus, donc quand là je parlais des jeunes, mais aussi des moins jeunes, quand il y a aussi d'autres troubles qui peuvent arriver, et aussi dans le cadre qui est aussi ma spécialité en sexopérinatalité, en postpartum, c'est aussi important de penser au-delà de la pénétration.
Oui, bah oui, évidemment. Je reviens pas qu'il y ait des hommes qui justement insistent pour avoir des relations sexuelles avec leur compagne peu après l'accouchement. Là aussi, il y a une grande violence dont on parle pas.
Martin a eu un impératif avec son enfant, donc notre échange est un peu coupé comme ça, brutalement, et avec nos agendas respectifs, on n'a pas pu se revoir avant la diffusion de cet épisode. De toute façon, c'était la fin, il me restait une question finale, non, deux petites questions, je peux les poser ici pour votre curiosité. Mais avant ça, voilà, notre discours s'est terminé sur justement l'importance de penser la pénétration, de penser la sexualité autrement que via le prisme de la pénétration, et que cela pourrait apporter beaucoup de bien dans la sexualité des personnes, encore plus quand il y a des difficultés, des troubles érectiles, quand il y a des douleurs, du vaginisme. Et moi, comme je partageais, et qui fait partie aussi de mon livre « Réinventer sa vie intime après bébé », où je partage justement qu'en postpartum, c'est aussi important de pouvoir penser sa sexualité autrement que via le prisme de la pénétration, d'autant plus quand il y a des inquiétudes, des appréhensions, de revenir à une sexualité pénétrative, d'avoir déjà cette flexibilité-là de repenser sa manière de faire l'amour, sa manière de penser la sexualité, ça a beaucoup d'avantages. Bref, par rapport à mes deux petites dernières questions qui me restaient, c'était une limite par rapport à son livre. Alors, il l'a dit, son livre s'adresse aux hommes cis hétéros. Et moi, je me posais la question, si lui, il savait, hein, par exemple, est-ce qu'on peut penser aussi la pénétration dans les rapports homosexuels ? Est-ce que c'est les mêmes enjeux ? Qu'en est-il ? Voilà, ça, c'était ma question qui me restera comme ça, sans réponse peut-être, je ne sais pas, on va voir. Et puis, ma toute dernière question, c'est la question classique, un peu phare de ce podcast, qui est « Si les gens ne devaient retenir qu'une chose de la sexualité et ou de l'éducation sexuelle, qu'est-ce que ce serait ?» Voilà. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Martin Page. On en apprend tout plein avec. Je vous recommande d'ailleurs son livre « Au-delà de la pénétration ». Je m'excuse pour cet échange, comme je disais, arrêté brutalement, mais c'est aussi la vie. Nous sommes des personnes humaines et il y arrive des choses, encore plus quand on est parent. Et ça, je suis encore en, encore plus dans la compréhension et l'empathie depuis que je suis devenue maman il y a 4 mois. Ça arrive. En tout cas, ça n'a pas perdu l'essence des propos de Martin Page. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur ma page Instagram Camille Parle Sexe et encore mieux à laisser des étoiles sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Spotify ou Apple, ou même autre chose. D'ailleurs, si c'est Apple, vous pouvez même laisser un petit commentaire écrit, ça fait toujours plaisir et ça permet au podcast d'être référencé, de gagner en visibilité. Et pour moi, de continuer mon travail auprès de vous. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À tout bientôt.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.